9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question avec vous, Julie.
Bonjour Wendy.
On va revenir sur l'une des demandes qu'on entend depuis quelques jours maintenant chez les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Ils ont même créé un acronyme, le RIC, qu'on entend dans les manifestations. Reprise en main de son destin, retrouver une souveraineté. L'appel au référendum est en général une promesse électorale, mais la consultation populaire est pour certains l'avenir de la démocratie, de notre 5e ou 6e République. Eh bien, on vous donne la parole au standard, le standard qui est ouvert dès maintenant, Julie.
Oui, le 39-21, vous appelez. Et on vous rappelle, et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
Et je fais réagir dans un instant notre invité pendant une heure, l'historien de la vie politique, Jean Garrigue. Et puis à 10h, on va parler des cadeaux de Noël bien particuliers, les objets connectés qui sont dans la vie d'un Français sur deux. Quels sont les plus répandus aujourd'hui? La télévision, bien sûr, le bracelet électronique, les objets qui s'apprêtent aussi à transformer notre santé, notre quotidien. On en parlera avec le prospectiviste Joël Doronet, ainsi qu'avec notre monsieur Innovation, Anissé Mbida, et on fait évidemment le point régulièrement sur la traque de l'assaillant de Strasbourg. Nos équipes sont mobilisées toute la journée.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec cet appel au référendum d'initiative citoyenne, bonjour Jean Garrigue.
Bonjour.
Vous êtes également l'auteur tout récemment de La République des traîtres chez Taillandier. Un tract qui circule sur les comptes Facebook partagés par les Gilets jaunes. Le RIC à la une, cet acronyme, ce référendum d'initiative citoyenne qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faut dire que c'est un sujet qui avait déjà été exposé il y a 3 semaines à François de Rugy, ministre de la Transition écologique. Donc les Gilets jaunes avaient déjà cette envie et cette idée. Et pour justifier sa mise en place, il s'appuie sur l'article 3 de la Constitution qui définit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum, Jean Garrigue.
Oui, c'est une très vieille histoire, puisque le premier référendum dans notre vie politique date de 1793, oui. De la Révolution française. C'est une idée que beaucoup de constituants avaient déjà à l'époque et qui venait en fait, qui dérivait beaucoup de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau considérait que la représentation parlementaire, finalement, faisait des citoyens des sortes d'esclaves. Il le disait d'ailleurs à propos du système britannique, qui à l'époque était le premier système parlementaire. À partir du moment où vous avez élu des députés, ils font ce qu'ils veulent et le peuple est prisonnier, finalement, de cette décision parlementaire. Donc, il fallait redonner plus de parole, plus de poids aux citoyens par le biais du référendum.
Idée révolutionnaire qui n'a pas été reprise largement avant notre histoire très contemporaine, la Ve République, sous Napoléon. Est-ce que cette idée existe, notamment, Jean-Garrigue ?
Le souci, c'est qu'à partir de ce système référendum qui, en fait, n'a jamais vraiment été appliqué, si ce n'est en 1793 et en 1795 pour approuver des constitutions.
Oui,
constitution de l'an 1, constitution de l'an 3. Ensuite, il y a eu une dérive, c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte d'abord, en tant que premier consul, et Napoléon Ier, a utilisé ce qui ne s'appelait plus référendum mais plébiscite pour, faire valider par les citoyens l'approbation de son pouvoir. Je suis premier consul, vous êtes d'accord? Oui, non. J'instaure le consulat à vie, vous êtes d'accord? Oui, non. J'instaure l'empire, vous êtes d'accord? Oui, non.
La réponse fut oui.
Et la réponse fut oui, et très largement oui. Et son neveu Louis-Napoléon a fait la même chose lorsque lui, après, a fait un coup d'État. Il l'a fait ratifier par un plébiscite. Mmh. Ce qui fait que, dans l'esprit des républicains, à partir de la Troisième République, on est dans les années 1870, tout ce qui avait affaire à cette consultation populaire s'apparentait à un plébiscite, au fond, de dictateur. Et s'apparentait à une forme de régime, ce qu'on appelait plébiscitaire, qui était très proche de la dictature.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'ont en tête quand même une partie démobilisée sur cette idée du référendum plébiscitaire? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en posant une question, celui qui pose la question est de fait approuvé ou rejeté, qui a un caractère quasiment plébiscitaire aussi derrière référendaire.
C'est exactement le problème qui s'est posé depuis 1958, puisque là, pour le coup, le général de Gaulle, en 1958, rétablit l'usage du, du référendum, qui peut s'inspirer de la Révolution française, mais qui est passé par toute cette expérience du plébiscite. Et on s'aperçoit, sous la Ve République, et à commencer par le général de Gaulle, qu'à chaque fois que le général de Gaulle pose une question pour un référendum, c'est une manière, justement, de se plébisciter, de dire aux Français, est-ce que vous avez confiance en moi ? Jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, puisqu'il faut se rappeler qu'en avril 1969, quand le général de Gaulle pose la question du référendum sur la décentralisation, la réforme du Sénat, il dit « si vous dites non au référendum, je m'en vais ». Ce qui est une forme, évidemment, la forme la plus, je dirais, aboutie du plébiscite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a organisé ensuite des référendums, et il y en a eu plusieurs, eh bien, on est revenu sur cette idée que, voilà, il s'agissait de plébisciter le président de la République. Et évidemment, ça fausse totalement le débat, ça fausse la campagne pour le référendum.
Bien sûr.
Et ça fausse l'idée qu'on se fait du référendum.
Et François Giroud disait, dans un référendum, les gens ne répondent jamais à la question qu'on leur pose, ils donnent leur adhésion ou la refusent à celui qui la pose. Mais nous sommes dans un questionnement très actuel sur le fait de donner la parole au peuple, l'idée de la consultation populaire qui revient sur les sujets de société. Les Gilets jaunes évoquaient le 80 km/h comme les questions beaucoup plus profondes sur la vie en commun. On va voir justement quel est l'intérêt d'un référendum d'initiative citoyenne qui ne vient pas du haut, mais qui vient du bas, qui vient du peuple, qui vient de la base. On fait le tour de la question sur ce sujet. Pour vous donner la parole, n'hésitez pas. Là encore, le standard est ouvert sans plébiscite, sans référendum. Vous avez la parole tout à fait libre, sans question préconçue.
Voilà, au 39-21. On fait le tour de la question avec la Banque française mutualiste. Banque française mutualiste, la banque de chaque agent des secteurs publics.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
En marge de l'appel au référendum d'initiative citoyenne des Gilets jaunes, il nous raconte l'origine et l'histoire des référendums en France. L'historien de la vie politique Jean Garrigue est votre invité, Wendy Bouchard.
Pour réagir en effet à cette volonté des Gilets jaunes de donner plus de parole au peuple français avec ce référendum d'initiative citoyenne, on va essayer d'en dresser les contours. Alors que pendant son allocution télévisée lundi soir, Emmanuel Macron a posé la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné, dont il est administré depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies. L'idée du référendum est évidemment de faire descendre aussi cette organisation étatique, cette prise de conscience des sujets à la base et que chacun s'en empare, Jean Garrigue.
Oui, c'est une vieille idée, on le disait tout à l'heure, qui date de la Révolution française, de la naissance de la démocratie. La démocratie se conçoit dans une consultation la plus dense, la plus récurrente possible, la plus
pas
permanente possible,
au
et pas simplement au moment des élections, mais il est évident, et ça pose le problème de la représentation démocratique, qui est un problème majeur depuis maintenant plusieurs années en Europe, un peu partout, d'ailleurs dans toutes les démocraties, les gens ne se sentent pas représentés par leurs élites politiques. On voit bien comment ça se cristallise autour de la personne d'Emmanuel Macron, mais ça dépasse très largement sa personne. Il y a un très fort antiparlementarisme. On considère que bon, les députés sénateurs ne représentent pas d'abord la société dans sa diversité, dans sa mixité, et puis sont éloignés des préoccupations des Français. Donc c'est pas étonnant de voir surgir dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui est véritablement la traduction d'une frustration, d'un mal-être, je dirais, d'un divorce entre les citoyens et leurs élites, c'est pas surprenant de voir surgir cette aspiration à une démocratie participative. C'est pas nouveau. Hein,
non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent en avant le fait qu'ils ont voté blanc ou qu'ils se sont abstenus, qu'ils n'ont plus envie de passer à côté aussi des choses essentielles de notre vie démocratique. Ils veulent récupérer cet élan citoyen. C'est ça qui est bon. On brandit des drapeaux français et on dit on a envie de participer à la vie politique d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est ce qui est très positif, moi, me semble-t-il, dans la séquence qu'on est en train de vivre et qui, à mon sens, d'ailleurs, a commencé avec les Nuits debout dans 2015-2016, qui s'est poursuivie d'ailleurs par ce qu'a fait La République en marche, les marcheurs. Et de manière paradoxale, ceux-là même qui aujourd'hui s'élèvent contre Emmanuel Macron le font finalement au nom des mêmes principes d'une démocratie renouvelée, d'une démocratie qui va s'enraciner beaucoup plus dans le peuple, dans les citoyens, qui va donner beaucoup plus la parole aux citoyens. Et donc, c'est pas étonnant qu'apparaisse cette idée du référendum d'initiative citoyenne, dont il faut dire qu'il existe aussi dans beaucoup de pays.
Alors, on va en parler. C'est pas étonnant non plus que ça fleurisse à partir du moment où ce mouvement des Gilets jaunes est une mobilisation aussi 2.0. L'engouement virtuel, j'allais dire, de la parole partagée sur Facebook, etc., nourrit ce genre de...
Exactement. D'objet. Ce qu'on peut dire, c'est que l'espace politique 2.0, c'est quelque chose qui peut permettre de développer, de rendre possible ce qui pouvait apparaître un petit peu comme utopique, ces référendums. La mobilisation ultra rapide de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de citoyens par les réseaux sociaux permettra justement d'atteindre ces seuils quantitatifs qui justifieraient justement le référendum d'initiative citoyenne.
Avec pas simplement des questions constitutionnelles, pour le coup, avec ce référendum d'initiative citoyenne, qui pourrait être déclenché par un pourcentage de citoyens qui le soumettraient au vote de tous. C'est-à-dire que, par exemple, en Suisse, ça existe, sur une base de combien de signatures, Jean-Garrigue ?
En Suisse, je crois que c'est 50 000 signatures.
Oui.
Il faut savoir qu'en France, depuis 2008, depuis la révision de 2008, il y a ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que, je crois que ça doit être un cinquième des parlementaires, peuvent demander un référendum à condition d'être soutenu par un dixième, par plus d'un dixième du corps électoral.
Il faut être bon en maths, c'est compliqué.
Ce qui veut dire que bon, ça fait déjà beaucoup de députés et sénateurs, et ça fait plus de 4 millions de citoyens.
C'est beaucoup.
Le seuil est très très élevé.
Ça n'a d'ailleurs pas été opérant.
Ça n'a d'ailleurs jamais pu fonctionner parce que ce seuil est très élevé. Et on peut imaginer déjà que, je le répète, le recours aux réseaux sociaux pourrait favoriser l'amalgame justement.
Sur la pétition, justement.
Sur une pétition de signatures plus importantes. Et puis surtout qu'on puisse abaisser les seuils. Je crois que Marine Le Pen proposait un seuil à 500 000. Aujourd'hui, je vois dans les revendications des Gilets jaunes, ils proposent 700 000. Ça paraît effectivement plus raisonnable. C'est une quantité qui autorise à dire que... Bon, c'est l'expression quand même d'une partie non négligeable des citoyens. Et en même temps, ça rend possible, effectivement, je veux dire, le référendum.
Alors, vous avez, chers amis, quelques définitions, quelques contours déjà de la question du jour sur ce référendum d'initiative citoyenne, l'une des revendications des Gilets jaunes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette idée, la manière dont le gouvernement peut aussi s'en emparer, alors que c'est une promesse qui revient, on en reparlera régulièrement lors des élections. Promesse électorale, s'il en est, le référendum. On vous attend et on vous écoute
au standard, au 3921.
Et sur Twitter, n'oubliez pas.
Oui, avec le hashtag Europe 1.
À tout de suite, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
De la question, la suite, on a posé une question sur Facebook, comme nous le faisons chaque jour. Consultation populaire, référendum, faut-il donner plus de pouvoir aux citoyens ? Oui, à 78%. Avec quelques exemples de réflexion de nos auditeurs, Vincent nous dit, avec le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, les politiciens seront au service du peuple. Michel nous dit, il faudrait mettre en place le vote obligatoire et comptabiliser le vote blanc. Et François, à l'heure des fake news en masse, je ne suis pas certain que ce soit une excellente idée. Quel rapport les fake news avec
la cohabitation ?
Ça fait partie des craintes légitimes qu'on peut formuler. C'est-à-dire qu'au fond, un référendum, c'est une proposition à l'ensemble des citoyens qui vont se déterminer à partir d'informations. Et ces informations, on sait bien aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'elles peuvent être, en quelque sorte manipulées, déformées, justement par des campagnes qui pourraient être conduites.
Alors,
on en a parlé même au moment des Gilets jaunes, là, de ce que pourrait être le rôle de certains réseaux venus
complètement, ou complotistes,
de pays étrangers.
Oui.
Donc ça peut être
Mais ça vaut si on aborde les sujets de société dans les référendums. Jusqu'à présent, les référendums de la Ve République ont été circonscrits à des questions constitutionnelles, Jean-Garrigue.
Tout à fait, en fonction des articles 11, 89 de la Constitution.
Rappeler, hein, tout à l'heure, oui.
C'était... c'était véritablement autour des transformations institutionnelles que se nouait, ou de l'organisation des pouvoirs publics, pour être dans les termes de la Constitution, que ce sont qu'ont été organisés des référendums, ou pour des traités ou des ratifications, plus exactement, de traités européens.
L'élargissement de la Communauté économique européenne en 72, Maastricht évidemment en 92, et le 29 mai 2005.
Qui a marqué les limites de la pratique référendum.
Que Jacques Chirac décide de consulter les Français sur ce projet de traité qui veut établir une constitution pour l'Europe.
Exactement.
Donc Valéry Giscard d'Estaing, ex-président qui s'est penché sur l'écriture de cette constitution, dit c'est bien de poser la question par référendum à condition que la réponse soit oui.
Exactement.
Et là, en l'occurrence, la réponse n'est pas oui.
Et en dépit d'une mobilisation d'une grande partie du personnel politique, de droite ou de gauche d'ailleurs, on a vu se dresser un front anti-constitution européenne. Mmh. Et puis c'est le non qui a triomphé.
Déjouant tous les sondages qui donnaient le oui à 70% gagnant.
Ouais. Sauf que, 2 ans plus tard, on a contourné, Nicolas Sarkozy a contourné le non au référendum par une procédure parlementaire plus classique et qui a abouti à instaurer cette constitution.
On a dénié la parole des Français 2 ans après, avec le traité de Lisbonne. Julie.
Et puis il y a des circonstances où on aimerait reposer la question et on aurait une réponse différente. Exemple, le Brexit. Là, on n'est plus en France, mais le Brexit, je suis sûr que si on recommençait, on leur demandait pour ou contre, ça changerait, non ?
Ce qui montre bien la difficulté, la fluidité de ce que peut être l'expression populaire.
À un instant donné.
À un instant T.
C'est ça le problème.
Et si l'on prend l'exemple de l'abolition de la peine de mort en 1981, là aussi, on sait, les sondages l'ont montré à l'époque, que si le peuple a été consulté, on aurait dit non à l'abolition de la peine de mort. On aurait maintenu la peine de mort. Est-ce que François Mitterrand n'a pas eu raison d'aller outre justement cette vox populi pour imposer une mesure qui, quelques années plus tard, est devenue et a été acceptée par la majorité des Français ? Donc vous voyez, la temporalité, les enjeux, les fake news possibles font qu'il faut quand même prendre cette idée du référendum avec des pincettes, avec des précautions.
Oui, et on verra précisément aussi comment on appuie la parole du peuple lorsqu'elle s'est exprimée. Tout dernièrement, regardons le référendum local, Notre-Dame-des-Landes. Êtes-vous favorable à l'ouverture, à l'instauration d'un aéroport ? Les habitants de l'Euro-Atlantique répondent oui à 55%. Ouais. Pas suivi des faits, on abandonne le projet. Alors ça, évidemment, quand vous donnez la parole au peuple, que vous les mobilisez et qu'ensuite il n'y a rien, Jean Garrigue,
Ça explique pourquoi, évidemment, on a creusé ce fossé entre le peuple et ses élites. Le contrat de confiance a été rompu. On le disait, il a été rompu en 2005. En 2005, le peuple, les citoyens consultés disent non.
Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un caractère obligatoire, ces référendums ? Ce n'est qu'une vertu consultative ?
Celui de 2005 avait une valeur obligatoire.
Oui,
il était
preuve.
Ensuite contourné par l'histoire. Celui de Notre-Dame-de-Landes n'avait valeur que consultative, si ma mémoire ne me trahit pas. On voit ce qu'il en a été. Maintenant, avec le recul, on peut se demander aussi si on n'a pas eu raison de contourner ce référendum de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, l'affaire semble un petit peu résolue et on a bien fait de ne pas construire l'aéroport.
Oui.
C'est en tout cas ce que le temps nous dit.
Voilà pourquoi les Gilets jaunes, notamment, ne croient plus à ces initiatives référendaires venues d'en haut et qu'ils proposent eux-mêmes de soumettre, au prétexte de 700 000 signatures, par exemple, de pétitions, des sujets de société au gouvernement. À l'exécutif. On va en parler dans un instant avec l'un de nos auditeurs qui nous rejoint au standard, François de Perpignan, et puis d'autres réactions à vous livrer, Jean Garrigue, sur cette consultation populaire, ce référendum. Faut-il donner plus de pouvoir aux citoyens comme les mouvements actuels le demandent ? Vous êtes avec nous sur Europe 1 et on suit cette attaque à Strasbourg avec une motivation terroriste de l'acte qui n'est pas encore établie, et 3 morts, 8 blessés graves, 5 blessés légers selon les dernières informations de la préfecture. À tout de suite avec Julie.
Lors de son allocution, lundi soir, Emmanuel Macron a posé la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré de Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies. Et de leur côté, certains gilets jaunes demandent l'instauration d'un RIC, ils appellent ça le RIC, un référendum d'initiative populaire, plus facile à déclencher. Alors comment mettre en place un véritable dialogue avec les Français ? La consultation populaire est-elle l'avenir de la démocratie, l'avenir de la Ve République ? On en parle avec Wendy Bouchard et son invité, l'historien de la vie politique Jean Garrigue.
Absolument, Julie, avant d'accueillir François au standard qui nous appelle de Perpignan avec une réflexion très intéressante à vous livrer sur le référendum. Et Michel, vous le citiez tout à l'heure sur Facebook, qui nous dit qu'il faudrait mettre en place d'abord le vote obligatoire et comptabiliser le vote blanc. Déjà pour, en effet, prendre en considération l'expression populaire, Jean Garrigue.
Bon, il est évident, de toute manière, que notre système représentatif ne fonctionne plus, qu'en tout cas que les électeurs n'ont plus confiance. Donc, il faut modifier des choses, il faut changer. Prendre en compte le vote blanc, c'est aussi une très vieille revendication. Mmh. Je pense que ça fait partie quand même intégrante maintenant de ce qui devrait se faire, puisqu'on voit très bien à quel point cet abstentionnisme, ce vote blanc, etc., sont devenus des constantes très, très majeures du rendez-vous électoral. Donc ça me paraît important. La question de consulter plus fréquemment les citoyens, justement, à travers le référendum, c'est aussi quelque chose de très important. On peut penser aussi à la proportionnelle, à l'instillation d'une part de proportionnelle, ou aller vers une proportionnelle intégrale, parce que c'est vrai que la démocratie absolue, c'est la proportionnelle.
Ça veut dire, à vous entendre évoquer toutes ces réformes, je posais la question à Olivier Duhamel il y a quelques jours, qu'on est pour vous dans une crise institutionnelle, ou en tout cas au bout d'un système, Jean Garrigue ?
Moi, je pense qu'on est dans une nécessité de transformation du système. Je ne dirais pas crise institutionnelle, ou plutôt on pourrait le dire, parce qu'il y a une crise de la représentation démocratique. Crise institutionnelle, ça voudrait dire que les institutions ne fonctionnent pas. Mmh. Ce n'est pas le cas. Elles fonctionnent, et il ne faut jamais oublier aussi que le Parlement, comme instance de délibération, est un endroit où, en principe, une loi peut être amendée, modifiée par la délibération, par la recherche d'un consensus, la recherche de voies médianes. Et c'est intéressant aussi de construire ensemble, majorité-opposition, un projet de loi.
Et pas dans une structure tout à fait binaire. François, voilà. Vous nous rejoignez dans cet échange sur le référendum d'initiative citoyenne, une des revendications des Gilets jaunes. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour à monsieur Garrigue.
Eh bien, merci d'être à l'écoute. Avec votre analyse à nous livrer sur ce sujet, François.
Mais très simplement, si vous voulez, si on veut avoir l'avis du peuple, le premier niveau du reste serait le maire, parce que normalement c'est les maires qui devraient faire ça, mais ils ne le font pas parce que ils soulèvent les remarques qu'a fait monsieur Garrigue concernant le fait qu'on ne répond pas à la question, répond sur la validité de la personne qui pose la question. Mmh. La seule solution qui a déjà été tentée, c'est, je dirais, la réponse à choix multiples, basée sur deux principes, sur ce qui est déjà pratiqué dans les QCM et sur ce qui est pratiqué dans les votes multiples, par exemple aux États-Unis, où on vote pour différents strates en même temps, ce qui fait que ça oblige le citoyen à se poser des questions et à voter pas forcément de façon unilatérale pour une personne ou pour un parti.
Oui.
Donc le principe, si vous voulez, c'est au minimum, ça amène du reste celui qui pose la question à bien y réfléchir, mm-hmm. dans la construction de la question, c'est de dire, ben voilà, le problème est un tel, qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous voyez, il y a trois propositions possibles. Par exemple, on va créer une piscine, ou on va créer une famille sport, ou on va créer un centre culturel, et donc le citoyen a 3, 4, 5 choix. Ça, c'est à la liberté de celui qui pose la question, de l'élu qui pose la question, du représentant de l'État qui pose la question. Et cela, ça peut être à tous les niveaux, que ce soit un référendum de l'État, un référendum régional ou un référendum communal,
oui,
local.
C'est-à-dire et, que là, parce que là, vous évoquez...
Je termine, je l'intéresse, si vous voulez, c'est que là, ça oblige celui qui répond à se poser les questions. Et ça limite la tendance à, en fait, voter à côté de la question.
Oui, j'entends bien. Alors, les exemples que vous citiez étaient très locaux, François, mais vous considérez qu'on peut exactement appliquer le même système sur des questions de société. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au droit à mourir, l'assistance aussi, sur des questions très éthiques, bioéthiques. Mais c'est intéressant ce que dit notre auditeur, Jean Garrigue, justement pour affiner la perception du sujet par le citoyen.
Je trouve tout à fait intéressante cette proposition parce qu'elle permet de contourner deux choses. le référendum plébiscite dont on parlait tout à l'heure, et d'autre part, la binarité du référendum, c'est-à-dire le blanc ou le noir.
Et
les choses sont souvent plus complexes. Une législation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, je dirais même aujourd'hui. Donc le fait de proposer plusieurs solutions, comme une sorte de référendum à choix multiples, c'est comme ça que ça pourrait s'appeler, eh bien, je trouve que ce serait une manière de rapprocher encore plus le citoyen de la décision elle-même, qui, je le répète, est bien souvent complexe.
Oui, de la complexité qui est que l'on trouve aussi dans le débat parlementaire et dans la création d'une loi. Merci François, vraiment pour votre témoignage au 3921. Réaction sur Twitter, hashtag
Europe
1. Oui,
quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui s'appelle Amsel. Je ne suis pas d'accord car je fais confiance à l'État qui vote les lois. Un référendum peut être manipulé.
Ah, Jean Garrigue, oui.
Ah, mais il est évident qu'un référendum peut être manipulé.
Ou pas suivi des faits.
On en a parlé déjà tout à l'heure, surtout dans cette époque de manipulation médiatique, de réseaux sociaux, de fake news, et qu'on peut se poser effectivement la question de la, comment dire ça, de l'information et de la manière dont les citoyens seront suffisamment informés pour juger d'une question. Le principe de l'élu de la nation, le principe de la représentation démocratique, c'est d'élire des députés, des sénateurs qui vont devenir quand même des formes d'experts. Ils siègent dans des commissions, ils sont choisis en général pour leur expertise, ils ont du temps pour creuser les problèmes des collaborateurs. Le français moyen, le citoyen confronté à des problèmes plus ou moins complexes, on peut craindre qu'il soit insuffisamment informé ou carrément désinformé. Ça, c'est un vrai problème que pose le référendum.
D'où une logistique très forte qui devrait être adossée à ces questions référendaires, un manuel à destination des citoyens pour vraiment prendre aussi conscience de tout le prisme du sujet évoqué. Jean Garrigue, on poursuit cette réflexion avec vous sur la consultation populaire, sur les référendums, idée qui a été diffusée très largement sur les ronds-points, dans les cortèges des Gilets jaunes et qui reprend d'autres promesses électorales, redonner la parole au peuple, retrouver aussi sa place dans l'espace public et dans la chose politique. On fait le tour de ce sujet jusqu'à 10h. Chère Julie, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Consultation citoyenne, référendum, comment redonner la parole au peuple ? On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard et son invité, l'historien de la vie politique, Jean Garrigue.
Et trop sur Twitter, hashtag Europe 1 nous dit « Le référendum populaire me fait penser à la boîte à idées dans les entreprises ou le retour client fait par les entreprises. L'objectif étant de consulter les personnes au plus près d'un problème et d'un service. » Alors, c'est pas faux pour les référendums d'initiative locale. Hein, François Bien l'évoquait, sûr. La construction d'un stade, d'une piscine, etc. Évidemment, quand on s'intéresse aux sujets de société, aux enjeux plus nationaux, il y a la tentation démagogique, j'allais dire, d'un référendum. Lorsque Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen le brandissent comme une arme absolue, on est un peu dans ce côté-là aussi. C'est presque la facilité, Jean Garrigue.
La démocratie est toujours sur le fil du rasoir avec la démagogie, justement. C'est-à-dire qu'il faut entendre le peuple, il faut faire s'exprimer le peuple le plus souvent possible. Mais attention, parce que le peuple peut être aussi manipulé. Le peuple n'a pas toujours raison par rapport ce que pourrait être l'intérêt national, l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Donc c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Et c'est vrai que ce n'est pas un hasard si cette idée du référendum citoyenne est quand même brandie par les extrêmes de la vie politique, ceux qui a priori parlent au nom du peuple contre les élites et qui développent bien souvent une pensée qu'on peut considérer un peu comme binaire ou comme simpliste.
Pour le reste, les 9 référendums organisés sous la 5e République ont été circonscrits à des questions très constitutionnelles, on le rappelait, Jean Garrigue. Nous sommes avec Marine et Jean-Michel Ostendard. Bonjour Marine.
Bonjour.
Merci madame de nous rejoindre dans cette discussion, vous qui nous appelez de Boulogne-Billancourt. Votre réaction, votre position sur les référendums d'initiative populaire notamment ?
Alors, c'était pas exactement sur les référendums que j'étais intervenue, mais je peux.
Ah, mais dites-nous,
votre pensée. Mon avis était. Mon intervention était surtout de dire, mais c'est ce qui vient d'être dit exactement par votre invité, c'est-à-dire que le peuple n'a pas toujours raison, et que je suis sidérée d'entendre tous ces mouvements qui commencent à dire il faudrait qu'on parle, on sait à la place des sachants, mais quand on va voir un médecin, et c'était ça mon intervention quand j'ai appelé votre standard, quand on va voir un médecin, on s'attend à ce que le médecin ait fait des études de médecine. Quand on va voir un avocat, on s'attend à ce que l'avocat ait fait des études de droit. Et quand on gouverne, on s'attend à ce que nos gouvernants aient fait des études par ailleurs. On ne peut pas imaginer qu'on va gouverner un pays sous prétexte qu'on a une idée sur la manière dont on est malheureux ou dont on devrait faire mieux. C'est-à-dire que je trouve aujourd'hui qu'il y a dans le discours des Gilets jaunes, et qui est évidemment instrumentalisé par ailleurs par les extrêmes, mais une espèce de croyance de ce que le peuple pourrait gouverner à la place des gouvernants, en oubliant que c'est un métier. Et sur les référendums, en vous écoutant depuis tout à l'heure, je pensais au Brexit, qui me paraissait un excellent exemple d'un référendum qui met aujourd'hui la population britannique dans une situation extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'ils ont voté sous prétexte que le référendum était une initiative populaire et qu'ils avaient le meilleur avis, et aujourd'hui plus personne n'en veut. Ils sont bloqués par une situation qui va mettre le pays qui était plutôt bien et dans une bonne, dans une situation économique favorable, dans un, c'est un espèce de chaos incroyable. Parce qu'on a fait appel au référendum. Et je trouve que c'est un bon exemple d'un référendum totalement raté.
Eh ben, excellente intervention de Marine Jean-Garrigue, hein, qui a vraiment dressé les contours et les limites de ce système.
Oui, c'est d'une grande sagesse. Ouais. Effectivement, quand même, la délibération parlementaire, qui est à l'origine aussi de notre démocratie, elle a été conçue justement pour faire dialoguer, pour confronter des points de vue à partir d'études extrêmement précises qui sont faites par les commissions, par l'audition d'experts, etc. Et donc, penser que d'une manière spontanée comme ça, des citoyens qui n'auront pas eu toute cette formation, tout cet éclairage sur telle ou telle question pourront la résoudre par un oui ou par un non, effectivement, ça pose un véritable problème.
C'est-à-dire qu'une indignation ne suffit pas, aussi importante soit-elle, hein, parce qu'on a des pétitions à peu près sur tous les sujets en ce moment. Change.org en relaie énormément. 700 000 citoyens, ce qui est la base de leur revendication pour déclencher un référendum d'initiative citoyenne, c'est pas énorme. Finalement, ça peut s'atteindre rapidement sur tous les sujets. Et là, il y a ce risque de mélange des genres aussi que vous craignez.
Exactement. Alors, en même temps, pour parler comme certains, en même temps, l'idée d'avoir une grande consultation citoyenne, le référendum, c'est ça, donc un grand débat public où pourront intervenir les experts, confronter là aussi leurs opinions. Ça peut être aussi une forme d'éclairage de la population.
Oui, alors à ce moment-là, on reste dans la consultation.
On peut faire confiance à la maturation et à la maturité des Français par rapport à la chose politique. Mais je le répète, il y a un certain nombre de sujets, notamment des sujets de société, qui sont d'une complexité telle, qui renvoient à des connaissances très précises, qu'on peut quand même se poser la question.
D'où la réflexion tout à l'heure de François qui proposait des choix multiples. Merci vraiment Marine pour votre intervention très intéressante et éclairée. Dans un instant, c'est Jean-Michel qui va échanger avec vous, Jean-Garrigue, sur ces consultations, ces référendums, la nécessité, disent les Gilets jaunes, de donner aussi plus de pouvoir aux citoyens. Qu'en pensez-vous? Encore quelques instants pour réagir au standard, Julie.
Le 39-21, on attend vos appels et vos commentaires.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les dernières minutes de l'émission, comment redonner la parole au peuple? Comment nous donner la possibilité de nous exprimer en dehors des périodes électorales pour ne pas perdre le lien avec la politique? Mais est-ce seulement possible? Est-ce que la Constitution le permet?
Eh bien, en tout cas, c'est une revendication des Gilets jaunes, les référendums d'initiative citoyenne. Question que je relaie à Jean-Garrigue, notre invité, historien de la vie politique. Est-ce que dans le cadre de la Ve République, ces référendums d'initiative citoyenne, populaire, seraient possible, Jean?
C'est-à-dire qu'il faudrait modifier la Constitution pour élargir le périmètre, justement, de ces consultations. Mais c'est tout à fait possible. On peut modifier la révision de 2008 en élargissant ces quotas de partage dont on parlait, parce que ça s'appelle référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire dire qu'on a besoin de moins de parlementaires et de moins de citoyens pour accréditer l'idée d'un référendum.
Et pour modifier la Constitution, il faut un référendum.
Ah voilà. Oui, en principe, il faudrait passer déjà par un référendum. Voilà, c'est la quadrature du cercle. Mais il faut savoir qu'il y a 14 pays européens qui ont ce système de référendum d'initiative citoyenne. Alors, très, 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 avec des modalités très, très différentes selon les pays. Mmh. Par exemple, au Portugal, c'est juste pour abroger une loi. Mais ça existe au Portugal. D'accord. En Suisse, vous pouvez.
C'est-à-dire
en revanche,
des citoyens mécontents peuvent dire voilà, on voudrait supprimer cette loi et on le soumet. C'est dangereux. Hein.
Ça peut être effectivement dangereux. Mais c'est toujours dangereux un référendum, on l'a dit, pour des tas de raisons, parce que c'est plébiscitaire, parce que ça peut donner prise à des fake news, etc. C'est toujours un peu dangereux, mais je le répète, bon, en Suisse, on fait très souvent
sur la base de 50 000 signatures,
sur la base
de citoyens.
50 000 signatures, ça fonctionne pas mal en Suisse, ça fonctionne en Californie aussi, dans l'État de Californie, qui ont été un peu pionniers aussi pour ça. Donc, on peut imaginer que ça puisse fonctionner. De toute manière, il y a une telle aspiration, je dirais presque symbolique, dans la société française à transformer notre démocratie, à la rendre plus participative, que toutes les initiatives qui iront dans ce sens, à mon avis, seront plutôt considérées comme positives.
À minima, Emmanuel Macron, qui veut décentraliser justement la gestion très étatique du pouvoir aujourd'hui, pourrait multiplier les consultations populaires qui n'ont vertu et valeur que consultative, mais qui déjà justement créent un mouvement, un débat national sur le terrain, sur des sujets de société, et réunissent
c'est très clair.
De fait.
Ce qui se passe là, ce qui est lancé là pour 3 mois, ça s'apparente à une sorte de consultation. Mm-hmm. J'allais dire presque référendum, en tout cas quelque chose qui participe de cette démocratie participative. On pourrait imaginer aussi qu'à l'échelle des conseils régionaux, on parle beaucoup de cette décentralisation vers les collectivités territoriales, on puisse organiser des référendums, et pas seulement consultatifs d'ailleurs, et pourquoi à l'échelle aussi municipale des référendums qui puissent être comme ça l'émanation de la volonté populaire.
Dominique réagit sur Twitter, hashtag Europe 1, l'intérêt collectif n'est hélas pas toujours compatible avec l'intérêt particulier. J'ai peur que la consultation par référendum systématique sur les questions de société ne conduise toujours à privilégier le second, le référendum. Et le mouvement Gilets jaunes semble l'indiquer, dit-il. Ah oui, alors si le peuple récupère la parole,
ben oui,
totalement.
C'est tout le problème, je le répète, de l'équilibre entre démocratie, démagogie, du respect quand même de cette notion fondamentale qui est celle de la délibération et de la coproduction collective et je dirais binaire et antagonique et par dissensus. Alors les termes sont un peu compliqués, mais ce qui se passe au Parlement, c'est-à-dire de produire ensemble de la loi, même si vous n'êtes pas d'accord au départ, pour aboutir à quelque chose qui relève d'un consensus, c'est quelque chose qu'il faut conserver dans notre pratique de la production démocratique et que le référendum risque de nous enlever. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre cette consultation la plus récurrente possible, la plus probante possible des citoyens, et puis ce qui reste quand même le fond de la production législative, c'est-à-dire la délibération parlementaire.
Être consulté, vous dites oui, oui à 78% sur notre page Facebook aujourd'hui. Jean-Michel nous écrit de Pressac, attention au référendum qui pourrait marcher s'il n'y a pas d'un côté le peuple et de l'autre le gouvernement. Alors, il réagit aussi au désaccord du moment, à la désunion du moment. C'est vrai que le danger du référendum, c'est ce terreau justement de défiance totale vis-à-vis du politique.
Voilà, c'est qu'il soit une manière systématique de sanctionner ceux qui sont au pouvoir. Et on revient à l'idée du plébiscite. Le général de Gaulle part en 1969. Les gens n'ont pas du tout voté sur la question qui était posée, décentralisation, réforme du Sénat. Les Français ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Ils ont voté sur le maintien ou le départ du général de Gaulle. Et il s'est trouvé qu'une majorité d'entre eux a voulu son départ. Alors attention, parce que ça peut engendrer des formes d'instabilité gouvernementale, ça peut engendrer une sorte de déformation totale des enjeux qui sont mis en cause. Donc ce serait finalement contre-productif par rapport à ce que doit être le débat démocratique. Donc je le répète, prendre des précautions.
Il est vrai qu'en tout cas, Emmanuel Macron ne pourra pas passer à côté de cette demande de dialogue, de reprise en main aussi de la souveraineté par ses propres citoyens que nous sommes. Merci Jean Garrigue pour votre éclairage.
Beaucoup.
Je rappelle Jean, l'un de vos derniers ouvrages passionnant. On avait fait une émission sur le sujet, La République des traîtres de 1958 à nos jours, aux éditions Talendier, que vous avez publié il y a quelques semaines. À bientôt Jean Garrigue.
À bientôt.
Et on va se retrouver, je ne sais pas si vous êtes très connectés, mais à 15 jours de Noël avec cette réflexion sur les objets connectés. Un Français sur deux pense en offrir un au pied du sapin. Alors de la télé aux gadgets, aux objets connectés qui peuvent révolutionner demain notre santé, notre médecine. On fait le point notamment avec l'homme de la situation, le prospectiviste Joël de Ronay. À tout de suite.
Dans un instant, la météo.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.